dans ces moments de crise, dans ces moments où les gens craignent l'avenir, il faut, à mon sens, une vision différente de l'organisation de la société, quelque chose qui soit nimbé de justice. Et parce que les crises sont économiques, écologiques, elles sont, ce sont des crises de droits humains, et nous devons désormais savoir comment nous traitons les uns les autres et comment nous traitons le monde naturel. Nous devons avoir confiance dans une vision d'un système différent.
Dire non ne suffit plus, selon l'activiste et essayiste canadienne Naomi Klein, dont on entendait la voix et dont l'essai « Dire non ne suffit plus » vient de paraître chez Actes Sud. Alors que faire ? Dans l'actualité des idées aujourd'hui, une recette de la prospérité avec le prix Nobel d'économie 2006, Edmund Phelps, directeur du Centre Capitalisme et Société de l'Université Columbia aux États-Unis, auteur cette année chez Odile Jacob de « La prospérité des masses », retour sur les racines historiques et intellectuelles des économies modernes, sur les périodes d'enrichissement qu'elles ont connu à partir de 1820, sur les raisons aussi de ce dynamisme, avec peut-être l'envie de s'en inspirer aujourd'hui, de comprendre ces clés du succès et peut-être d'y trouver des moyens d'action à travers ce que le passé a pu produire de bon. Au cœur de la réflexion de notre invité, la question de l'innovation. De passage à Paris pour la première édition des Rendez-vous de l'économie organisée sous le haut patronat du ministère de l'économie et des finances, une journée d'échange et de débat sur le thème des ruptures technologiques et des inégalités qui bouleversent aujourd'hui marchés et modes de vie. Edmund Phelps, bonjour à vous.
Good afternoon.
Et bonjour à votre voix française, Robert Wolfenstein, bonjour. Rupture technologique et inégalité, autrement dit, comment concilier innovation et justice sociale, Edmund Phelps, comment allez-vous contribuer à ce vaste débat ? Quelle sera la particularité de votre contribution ?
Yes, I do understand that that is the... The main focus of,
oui, c'est là l'objet principal du débat de demain, de la, des rendez-vous de l'économie. Vous savez, ce terme « inégalité » me gêne un petit peu dans ce contexte. Vous savez, aux États-Unis, on se préoccupe beaucoup de la perte d'inclusion qui a été provoquée par l'arrivée de la robotique, de l'intelligence artificielle, et d'autres disruptions technologiques, si l'on peut dire. Et c'est vrai qu'on est bien malheureux de perdre un emploi si cet emploi fait sens, s'il donne un sens à la vie. Quelquefois, il est très difficile ensuite de trouver un autre travail qui puisse remplacer valablement celui qu'on a perdu. Alors, aux États-Unis, comme vos auditeurs le sauront sans doute, aux États-Unis donc, il y a un nombre considérable de personnes, notamment au centre du pays, qui sont malheureuses, hein, qui se sentent frustrées, qui se sentent marginalisées. C'est un problème réel, mais c'est un problème qu'on trouve également ici, en France. Alors, peut-être pas dans la même proportion.
Le poids de l'intervention de l'État, Edmund Phelps, c'est une entrave à l'innovation pour vous. Vous le répétez depuis longtemps. Alors, quels peuvent être les garde-fous ? Qu'est-ce qui peut venir assurer cet équilibre aujourd'hui, si ce n'est pas l'intervention de l'État ?
Well, sure, the state can come in to help.
Oui, alors l'intervention de l'État, elle peut quand même se justifier pour aider ceux qui ont perdu leur emploi à en trouver un autre. Il y a des situations d'urgence sociale où l'État peut quand même intervenir pour traiter ce genre de problème aigu. Cela étant, ce sur quoi je tiens à insister ici, c'est que la perte massive d'emplois qu'on a constatée au cours des dernières années n'est pas une fatalité définitive. Il est, alors, dans les périodes de prospérité économique, et surtout lorsqu'il y a de nouvelles innovations qui apparaissent, il est possible pour ceux qui ont perdu leur emploi d'en trouver un autre ailleurs, dans un autre secteur peut-être. Moi, je me rappelle quelque chose, c'est un exemple certes américain, mais quand même, un exemple qui mérite d'être souligné ici. Dans les années 30, pendant la Grande Dépression, il y avait en plus des sécheresses dans le Midwest américain, vous avez eu des populations entières qui se sont déplacées, qui sont allées sur la côte ouest des États-Unis, où, au bout du compte, elles ont trouvé une nouvelle prospérité. Donc, cette perte d'emploi ou cette perte de salaire ne devrait pas être considérée comme une fatalité définitive.
Pas de fatalité. Vous partagez par ailleurs, Edmund Phelps, le cap pro-innovation fixé par Emmanuel Macron, en tout cas dans ses discours. On verra ce qu'il en est de son action. Emmanuel Macron, hier ministre de l'économie, aujourd'hui président de la République. Comment pensez-vous qu'il peut y parvenir? Est-ce qu'il vous semble avoir la bonne stratégie pour relancer l'innovation?
Well, my impression is that France is just at the beginning of a strategy.
À mon avis, la France n'en est qu'au tout début de sa stratégie pour faire face justement à ces problèmes de chômage, de perte de revenus pour en tout cas une certaine catégorie de la population active. À mon sens, il y a toute une série d'étapes, toute une série de mesures qui devraient être prises pour aider justement ces gens à retrouver du travail. Alors, la reconversion professionnelle peut constituer une solution. Évidemment, ça n'est pas toujours facile, mais c'est un exemple qui me vient à l'esprit. Mais également faciliter la mobilité, hein, aider les gens à trouver du travail dans d'autres domaines d'activité qu'ils ne connaissaient pas précédemment. C'est une autre piste. Disons qu'à ce stade-là, il faut chercher les solutions, mais il y a une espèce de défaitisme qui règne, on dit qu'on ne peut rien faire, enfin, c'est un petit peu l'ambiance régnante. Ce serait, à mon avis, une grave erreur de se complaire dans ce défaitisme. Je crois qu'on aurait tort de se dire que voilà, on ne peut plus rien faire, c'est ainsi, c'est définitif.
Et comme on n'est pas fataliste, vous savez qu'Emmanuel Macron est conseillé par l'économiste Philippe Aguillon, qui lui s'inspire beaucoup des théories de Schumpeter, notamment sur sa destruction créatrice, pour lequel il est bien connu. Vous avez pris assez vite des distances avec cet économiste sur la place qu'il accorde aux avancées scientifiques. Et ce qui est intéressant avec vous, Edmund Phelps, c'est que pour vous, l'essentiel de l'innovation, de cette relance que vous appelez aussi de vos voeux, ça ne peut marcher qu'à travers les idées.
Philippe Aguillon, besides being a very good friend of mine,
cela étant, Philippe Aguillon est un excellent ami et j'ai énormément d'admiration pour son énergie, pour son inventivité, ce qui ne veut pas dire qu'on doit être d'accord absolument sur tous les points et sur toutes les nuances. Lui comme moi, nous souhaitons promouvoir l'innovation. Alors, je souris un peu lorsqu'on se réfère à Schumpeter dans le conseil qu'on donne au président, parce que lorsque Schumpeter écrivait, il parlait de phénomènes tels que la découverte du nouveau monde par Christophe Colomb. Bon, alors, c'était peut-être l'innovation de Christophe Colomb, c'était une invention, mais enfin, elle n'avait pas en soi cette découverte de valeur économique immédiate. Ce dont les pays ont besoin, c'est d'entrepreneurs qui peuvent traduire ces découvertes en aventures économiques qui pourront à leur tour générer suffisamment de recettes pour se financer. Et c'est là qu'interviennent les entrepreneurs, des gens qui ont de bon sens, d'énergie, du savoir-faire, des connaissances surtout de leur métier, des secteurs d'activité dans lesquels ils sont présents. Mais ici, l'innovation dont on parle ne se compare pas avec ce qu'on avait constaté, par exemple, en Angleterre, en France ou aux États-Unis à la fin du siècle dernier. L'innovation de l'époque, dans ces trois pays, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, venait de l'imagination des simples citoyens. C'était un mouvement qui partait de la base. C'était, comme on dit, bottom-up plutôt que top-down. Et moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est quand j'entends des économistes, pas nécessairement Philippe Aguillon, hein, mais je suis toujours un petit peu inquiet quand des économistes disent que ben voilà, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est donner libre cours, hein, carte blanche aux entrepreneurs et tout ira bien. On essaie d'imaginer une espèce de révolution économique qui aboutirait à une espèce de nirvana, de paradis qui ne saurait être atteint si certaines conditions ne sont pas remplies quand même. D'abord, il faut permettre à des gens sans qualification ou faiblement qualifiés de travailler, même avec des salaires modestes, pour pouvoir faire tourner la machine.
Oui, c'est une manière de reconnaître que nous sommes quand même pas tous égaux aujourd'hui devant l'innovation.
Well, that's true. Some of us are
oui, effectivement, nous ne sommes pas tous égaux devant l'innovation. Nous ne sommes pas tous égaux non plus devant la productivité. Certains d'entre nous sont plus productifs que d'autres. J'ai l'impression qu'il y a une véritable obsession autour de cette notion d'inégalité, ici notamment dans le monde occidental. Si je puis me permettre de faire une petite observation, entre parenthèses, j'étais très ami avec le philosophe John Rawls. Et je suis devenu un Rawlsien, si l'on peut dire, et les Rawlsiens, comme moi, s'intéressent beaucoup à voir comment on peut tirer, en tout cas faire valoriser le travail de ceux qui sont les plus défavorisés. Hein, c'est là, et pourtant ce sont eux qui souffrent le plus de l'inégalité. Je ne parle pas de la différence entre le haut de la pyramide, les premiers 2% et les 10% de la pyramide. Je parle de ceux qui sont vraiment défavorisés, et là on s'y intéresse peu.
J'allais vous demander à quelle famille économique, voire philosophique, vous apparteniez, Edmund Phelps, mais vous venez de répondre en partie à la question. Vous êtes proche de ce courant de pensée qui a été incarné dans les années 60-70 par John Rawls, mais aussi par Amartya Sen, que vous avez rencontré après toutes ces discussions que vous avez pu avoir ensemble avec John Rawls. Vous avez aussi écrit plusieurs essais sur la théorie de la justice économique. C'était la base de votre travail.
Yes, I'm a great admirer of Amartya Sen.
Mais oui, je suis un grand admirateur d'Amartya Sen et je suis fier de pouvoir dire que à plusieurs occasions, disons que cette admiration était réciproque. Et tout récemment, il m'a dit, ainsi qu'à mon épouse, qu'il aimait beaucoup mon livre, La prospérité des masses, et je suis ravi de voir qu'il a apprécié cet ouvrage.
Alors venons-en à votre essai « La prospérité de masse » qui vient seulement d'être traduit en France cette année. Vous appelez depuis longtemps à dépasser les clivages entre micro et macro économie. Edmund Phelps, on vous dit plutôt économiste tendance orthodoxe, mais somme toute vous restez assez inclassable. Vous appelez à dépasser les clivages entre micro et macro, mais aussi à dépasser les clivages entre les disciplines, puisque vous vous nourrissez autant de chiffres, de courbes que d'opéra et de peinture. Vous êtes un passionné d'art. Jusqu'à citer David Hockney en préface de votre essai. En découvrant Los Angeles pour la première fois, dit David Hockney, le peintre britannique, j'ai constaté que personne n'en avait donné une juste image en peinture. Placé sous le signe de David Hockney, cet essai, on imagine que vous avez choisi aussi de poser un regard nouveau, non pas sur la ville de Los Angeles, mais sur l'histoire de l'économie. Quels yeux neufs avez-vous chaussé, Edmund Phelps, pour nous raconter cette autre histoire de l'économie?
Well, as that question indicates, or at any rate suggests,
comme votre question semble l'insinuer, vous savez, ma propre idée de ce que devrait être une bonne vie pour chacun d'entre nous, c'est d'avoir finalement la possibilité d'imaginer de nouvelles choses, de créer de nouvelles choses et dans une certaine mesure de profiter du simple plaisir de la naissance de nouvelles idées, de nouveaux objets, en espérant que la société adopte ces idées ou ces concepts qui se font jour. Alors, au risque de me ridiculiser, je dirais que je rêve un peu d'une époque où il y ait cette espèce d'allégresse constante dans la société en général, ou sur le lieu de travail en particulier, de même que les artistes, les chorégraphes, les peintres, ressentent une certaine satisfaction à produire une œuvre, eh bien, on aimerait retrouver cette même satisfaction chez le commun des mortels.
Mais dans cette envie que vous avez eue de relire l'histoire et d'en montrer des signes différents que ceux qu'on percevait jusqu'ici, à la manière de David Hockney et Edmund Phelps, quels sont les clivages dans l'histoire économique qui vous sont parus non pertinents ?
Well, I do think that economics has not developed as well as it could have.
Pour répondre à cette question, je dirais d'abord que l'économie en tant que science ne s'est pas développée autant qu'elle aurait pu, autant qu'elle aurait dû.
I was amused and alarmed.
Qui m'a à la fois amusé et un peu inquiété, c'est de me rendre compte au cours des dernières semaines que dans les classes d'université en France, on enseigne aux étudiants Marx et Keynes, et c'est tout. Enfin, j'exagère peut-être un petit peu, mais enfin, disons qu'il y a comme une tendance une tendance à réduire toute science à une seule perspective théorique et à s'y tenir, comme s'il n'y en avait pas d'autre. Et ça, enfin, comme approche, je trouve ça assez inquiétant. Donc moi, ce que je m'efforce de faire, c'est de, disons, de faire avancer une nouvelle perspective dans une nouvelle approche même de l'économie, même de l'étude de l'économie, de l'histoire de l'économie, en incluant d'autres dimensions que simplement mathématiques, le sentiment de, disons, la passion, l'excitation de découvrir quelque chose de nouveau, l'attraction que pourrait présenter un problème si on peut le résoudre, cette dimension-là qui est beaucoup plus du registre émotionnel, le plaisir de pouvoir imaginer une nouvelle solution, une nouvelle façon de répondre à un problème, un nouveau produit, une nouvelle méthode. Cette dimension-là devrait trouver toute sa place. Je crois qu'il faut sortir de ce carcan strictement matérialiste dans la façon d'aborder l'économie. Alors évidemment, on peut certainement accuser Marx d'en être responsable, mais Keynes aussi, dans une certaine mesure. Alors, Keynes avait suffisamment de problèmes à part ça, mais disons que, à mon sens, l'étude de l'économie pendant trop longtemps a été trop matérialiste. C'est ce qui doit changer.
C'est pour ça que vous mobilisez le terme de valeur. Pour vous, il y a une grande différence entre ce que portaient les valeurs modernes par rapport à ce que portent les valeurs traditionnelles qui seraient de retour aujourd'hui, depuis les années 60, depuis le début de la fin de cette prospérité qui nous avait porté jusqu'ici. Qu'est-ce qu'elles véhiculent, ces valeurs modernes dont vous espérez un retour ?
Well, in writing a book, you have to think of names for things and
pendant l'écriture de mon livre, je me suis pris à réfléchir sur l'évolution de notre monde. Depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle, les gens avaient l'impression d'être livrés à eux-mêmes, mais également libres de penser seul, penser librement justement, de vivre leur propre vie, plutôt que de se soumettre au diktat d'une communauté, disons, médiévale, ou en tout cas d'un ordre qui pourrait être d'un autre temps. Donc cet individualisme-là détermine dans une large mesure les valeurs modernes qui, à différentes périodes du XIXe siècle, ont pu faire redémarrer les choses, d'abord en Grande-Bretagne, puis aux États-Unis, et puis également en France, peu après. Donc, l'individualisme, mais également, disons, la vitalité, ou on pourrait appeler ça le dynamisme, simplement, hein, la volonté de se mettre soi-même à l'épreuve, de se lancer des défis. Cet individualisme, ce dynamisme individuel, la volonté de relever des défis, mais également de s'exprimer en créant quelque chose qui vient de l'intérieur de soi, quelque chose qui exprime sa personnalité, qui dit qui nous sommes. Voilà, c'est un petit peu cela, ces valeurs modernes que vous décriviez, et qui étaient déjà là, embryonnaire peut-être, au XIXe siècle. Il me semble aujourd'hui que ces valeurs sont absentes de la France, ou en tout cas, elles sont moins présentes qu'elles ne l'étaient dans les années 1890, dans les années 1920, période à laquelle il y avait vraiment un sentiment de dynamisme en France, justement.
La grande table jusqu'à 13h30 avec l'économiste américain Edmund Phelps pour son ouvrage « La prospérité de masse » paru aux éditions Odile Jacob. Vous êtes le directeur du Centre Capitalisme et Société de l'Université Columbia aux États-Unis et par ailleurs prix Nobel d'économie il y a 11 ans.
France Culture. La grande table. Olivia Gesbert.
Relire l'histoire, Edmund Phelps, c'est donc comprendre ce qui a permis cette prospérité de masse de la deuxième partie du 19e siècle jusqu'à la bonne première partie du 20e siècle, retourner aux racines de l'innovation, aux clés de la réussite, aux sources de la bonne vie, comme vous dites. Comprendre ce qui a permis cela, ces valeurs modernes qui ont aussi permis au moteur de continuer à tourner, cette étincelle qui a permis aux sociétés de profiter de cette prospérité. Mais on ne peut pas comprendre les clés de la réussite sans comprendre les clés de l'échec. Pourquoi, à partir des années 60, tout cela a décliné? Vous pointez deux grands facteurs du déclin. Il y a le corporatisme, mais vous pointez aussi la mauvaise gouvernance des entreprises aujourd'hui, qui sont devenues trop grosses, trop massives, avec des dirigeants qui n'ont pas de vision, pas de cap pour leurs entreprises. Il n'y a pas que le corporatisme et le socialisme. Il y a aussi la manière dont on a dirigé les grands groupes aujourd'hui, Edmund Phelps.
Avant de répondre à ce point, j'aimerais quand même ajouter quelque chose sur les méfaits du corporatisme. La société dans son ensemble doit assurer la survie de chacun des groupes qui la constituent. Mais l'apparition du corporatisme dans les années 1890 faisait que chaque société était responsable de ses employés. Alors, c'est-à-dire qu'il y avait cette quand même une charge très très lourde qui pesait sur les sociétés à l'époque. Et alors ça en soi n'était pas non plus une bonne chose pour l'innovation, parce que si une société essaye de produire des biens, des services innovants, disons qu'elle serait assez entravée dans sa démarche, disons, économique, si elle est en même temps tenue de veiller au bien-être, à la qualité de vie, aux moindres aspects de la vie de ses collaborateurs. Alors, il faut relativiser, bien sûr, chacun doit aimer son prochain, mais là, cette forme de corporatisme est allée trop loin, au point de devenir complètement extravagante.
Autre facteur qui explique la crise d'innovation que nos économies occidentales ont connue à partir des années 60, pour vous, Edmund Phelps?
Another factor, I think, is the we had so many years of budgetary deficits.
Now we have. Parmi les autres facteurs que je pourrais citer, il y a eu des années de déficit budgétaire. Maintenant, nous avons effectivement chaque année, les États doivent consacrer une partie importante du budget au service de la dette. Et pour ce faire, le taux d'imposition augmente. Les impôts sont élevés. Donc vous avez une fiscalité très lourde et les systèmes de protection sociale, lorsqu'ils sont privatisés, deviennent très lourds à gérer. Alors, on pourrait se dire qu'individuellement, la couverture sociale d'une personne n'est pas si lourde que cela, mais enfin, multiplier ça par toute la masse salariale, ça commence à faire très très lourd. Et là, on finit par se demander si le jeu en vaut la chandelle, si une société est ainsi, une société commerciale est ainsi, disons, tirée par le bas avec toutes ses charges, est-ce qu'elle va pouvoir faire quelque chose d'utile? Est-ce qu'elle va pouvoir avancer? Je vais vous donner un autre exemple. La semaine des 35 heures. À mon avis, cette mesure était très malheureuse, elle était mal pensée. Elle a été prise par des gens qui ne se rendaient pas trop compte de ce que cela pourrait impliquer pour leur propre carrière, mais pour également celle de leurs enfants. Donc une fiscalité très lourde, mais également donc ces autres facteurs ont eu un effet délétère. Disons qu'elles ont déjà alourdit les difficultés qui existaient déjà. C'est-à-dire qu'un créateur d'entreprise devant un tel fardeau avait de quoi être découragé.
Dans son essai « La crise sans fin », la philosophe Myriam Revaud-Allon estime que ces crises ne sont plus amenées à se terminer aujourd'hui. Écoutez.
Dans une philosophie de l'histoire qui était investie par la croyance au progrès, on peut dire que globalement, les crises étaient des moments absolument incontournables, des moments par lesquels il fallait passer, qu'il fallait traverser et que l'on pouvait précisément dépasser parce que on était en marche vers un avenir meilleur, dans un devenir historique orienté. Alors c'est ce problème ou cette conviction qui aujourd'hui n'habite plus l'époque contemporaine et qui fait que la crise prend un sens tout à fait différent par rapport à un avenir qui nous paraît totalement incertain, où l'idée de progrès, tout au moins entendu comme progrès global de l'humanité, s'est complètement effondrée. Non pas du tout que nous ne croyons pas qu'il y a des progrès partiels ou sectoriels, des progrès de la médecine, des progrès tout au moins dans certaines régions du monde, des progrès matériels, des progrès liés à l'allongement de la vie. Nous ne pensons plus du tout que la marche de l'humanité se dirige vers un avenir radieux.
La philosophe Myriam Revaud-Allon, Edmund Phelps, dans un essai « La crise sans fin », estime que ces crises, aujourd'hui, ne sont plus dépassables parce que on n'est plus motivé par une idée d'un progrès global comme avant, on ne perçoit plus un avenir comme avant, et du coup, pour elle, toutes ces crises ne s'arrêteront jamais. Est-ce que vous, à contrario, vous pensez qu'on peut dépasser cette crise? Est-ce que vous restez optimiste? L'esprit d'innovation peut revenir pour vous, Edmund Phelps?
Well, sure, there's hope. As Dickens said, there's always hope.
Vous savez, il y a toujours de l'espoir, comme disait Charles Dickens. L'espoir fait vivre. En tout cas, l'espoir doit rester là, parce que sinon, nous n'arriverons à rien du tout. Il faut pouvoir espérer. Pour autant, je dirais que l'arrivée d'Emmanuel Macron sur la scène politique constitue peut-être le premier pas dans le sens, disons, d'un changement profond de l'économie, pour en faire une économie plus libre, plus intéressante et plus attirante, on peut le dire. Je pense qu'il annonce une nouvelle ère et espérons qu'il prendra les mesures qu'il faudra et qu'il y parviendra. En tout cas, je l'espère. Il se peut qu'il se trompe également parce qu'à ce stade, nous ne savons pas ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses à faire, certes, mais nous n'avons certainement pas recensé la totalité des mesures qui s'imposent. Et puis, comme je l'ai dit, on pourrait prendre des mauvais tournants, on pourrait également se tromper. L'échec est également possible, mais il faudra alors se retrousser les manches et recommencer.
Pour vous, relancer l'économie aujourd'hui, Edmund Phelps, c'est s'attarder sur tout ce qui stimule l'imagination, penser l'environnement qui suscite cette innovation et permettre un processus d'inclusion économique. En somme, c'est vraiment un cercle vertueux. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a déjà des petites poches, des îlots dans le monde, aux États-Unis par exemple, avec la Silicon Valley, où cet esprit d'innovation est en train de renaître, celui que vous appelez de vos voeux?
I'm sure that there were areas in the French economy that are already innovative.
Oui, ben vous citez la Silicon Valley. Je suis sûr que ici en France également, vous avez des îlots de l'économie française qui font preuve eux aussi de ce dynamisme.
And that's all to the good, of course.
Évidemment, ça c'est une très bonne chose.
I think to have an economy that is full of adventure and
cela étant, on n'est pas encore arrivé au stade où toute l'économie est portée par ce dynamisme, cet esprit d'entreprise, d'aventure.
To have that kind of an economy,
pour y arriver, pour créer cet esprit économique véritablement, il en faudra plus. Il faudra que l'innovation soit présente dans tous les secteurs d'activité. Pourquoi exclure telle ou telle activité, justement, de cet esprit d'innovation? Il n'y a aucune raison que l'innovation ne touche pas tous les secteurs de l'économie. Au 19e siècle et jusqu'aux années 1960, en France, aux États-Unis et même dans une certaine mesure en Grande-Bretagne, force est de constater qu'il y avait un petit peu partout cette créativité. Disons que ça allait relativement de soi. Alors, je ne dis pas que la créativité était universelle dans le sens que chaque homme, femme et enfant, en était porté, mais disons qu'elle était tellement présente que les innovateurs n'étaient pas une espèce d'aristocratie, une élite privilégiée de la société. Tout le monde y participait d'une façon ou d'une autre, dans tous les milieux.
Et puisque vous citez Dickens, Edmund Phelps, qui était quand même aussi à sa manière un réformateur, un partisan de l'égalité, Charles Dickens, l'auteur des temps difficiles et des grandes espérances, lui misait beaucoup sur l'éducation. Est-ce que ça doit commencer là?
Oui, tout commence d'une certaine façon par l'éducation, on peut dire ça. Mais bon, permettez-moi néanmoins d'être un petit peu sceptique. On a l'impression qu'on a tendance à faire une espèce d'équation entre l'éducation et le succès. C'est-à-dire qu'on considère que l'éducation est une condition à la fois nécessaire et suffisante pour l'innovation, ce qui est absolument faux. Bien sûr, l'éducation est nécessaire, il en faut différents niveaux, différentes formes d'éducation pour faire des choses, c'est certainement vrai. Mais il ne faudrait pas en conclure que cela suffise. Donc, oui, l'éducation doit être le terreau fertile sur lequel nos jeunes étudiants peuvent découvrir les théories qu'on leur propose, les mettre à l'épreuve et peut-être en imaginer d'autres. À mon sens, le rôle de l'éducation est précisément de stimuler les jeunes esprits, leur dire, regardez, il y a plusieurs façons de voir les choses, il n'y a pas qu'une seule vérité unique, il y a différents points de vue et chacun de ces points de vue a sa part de vérité. Donc là, je crois qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer, c'est le cas de le dire, de l'éducation. Ne serait-ce que savoir ce que l'on ne sait pas, être conscient du fait qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, c'est presque aussi important de savoir ce que l'on sait. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'un innovateur? C'est quelqu'un qui essaye d'élargir, d'agrandir l'espace des connaissances, de constater des vides cognitifs, pour ainsi dire, qu'il essaie de combler, apporter une réponse à des questions qui, juste là, étaient restées sans réponse, apporter des nouvelles solutions, des nouvelles propositions pour créer quelque chose de nouveau.
goût du défi, affirmation de soi, c'est un plaidoyer pour l'individu que vous pouvez retrouver dans cet ouvrage d'Edmund Phelps, La prospérité de masse, ce qui est bon pour les uns peut bénéficier à tous. Votre ouvrage est apparu chez Odile Jacob en mai dernier et vous serez donc aujourd'hui à Bercy dans le cadre de la première édition des Rendez-vous de l'économie. Merci beaucoup à vous, Edmund Phelps. Merci.
Thank you.
Et merci à toute l'équipe de La Grande Table, dont Henri Leblanc et Claire Maillot, qui ont programmé et préparé cette émission du mardi, réalisée par Alexandre Fougeron et Perret Legras, avec YouTube Diego Aclopez et Frédéric Kérou. À retrouver comme chaque jour sur le fil de votre podcast La Grande Table.